VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 12 novembre 2020. Eric Manelakiza en votre compagnie. D'abord, le sommaire. L'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, est décédé à l'âge de 73 ans. Au Burkina Faso, sept soldats tués hier dans une embuscade dans le nord du pays. L'Éthiopie tente d'afficher le soutien de sa population à l'opération au Tigré. Quatrième jour de négociations politiques libyennes en Tunisie sur le partage du pouvoir. Joe Biden a nommé son futur chef de cabinet à la Maison-Blanche, alors que Donald Trump refuse toujours d'accepter sa défaite. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, juste après le journal. L'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, qui a dirigé durant 20 ans ce pays, d'abord comme chef d'un régime militaire, puis président élu, est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé jeudi son parti. Le point avec Nathalie Barge.
J'annonce la suspension de notre campagne politique après la nouvelle de la mort du fondateur de notre parti et ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, a déclaré l'ex-président John Mahama, principal candidat de l'opposition à la présidentielle de décembre. Après un premier coup d'État en 1979 à l'âge de 32 ans, Jerry Rawlings, ancien pilote de l'armée de l'air, avait repris les rênes du pays lors d'un second coup de force 2 ans plus tard. À partir de 1981, il est devenu chef du Conseil national provisoire de défense et a dirigé un régime militaire pendant 11 ans, avant de céder à la vague du multipartisme dans les années 90. Élu président en 1992 et réélu en 1996, Rawlings a quitté le pouvoir en 2000 lorsque John Kuofor a remporté la présidentielle contre Jonathan Mills, son vice-président d'alors. Depuis, le Ghana est cité comme modèle pour ses alternances pacifiques et démocratiques.
Au Mali, la contestation grandit contre l'emprise des militaires sur la transition. Le mouvement dit du 5 juin a dénoncé dans un communiqué hier soir l'ascendant des militaires sur la transition sous un habillage civil. Il a appelé à entrer en résistance. D'autres organisations ont exprimé leur refus de participer à la mise en place d'un organe législatif de transition. 7 soldats burkinabés ont été tués et plusieurs blessés ou portés disparus. C'était hier dans une embuscade tendue dans le nord du Burkina Faso en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Des précisions avec Baga Sikoura.
Selon une source sécuritaire, une patrouille militaire est tombée dans une embuscade sur l'axe Tinakoff-Beldiabé dans la province de l'Oudalan, frontière du Mali et du Niger. La dernière embuscade remontait au 11 septembre. 4 soldats avaient été tués. Le Burkina Faso organise des élections présidentielles et législatives le 22 novembre. Le président Roch Christian Kabore, candidat à un second mandat, a lancé sa campagne en promettant de ramener la paix. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir été incapable de faire face à la menace djihadiste. En raison des violences, près de 1500 villages sur plus de 8000 dans 22 communes ne vont pas participer au scrutin. En septembre, les députés ont adopté une nouvelle loi permettant de valider les résultats des élections, même si elles ne se déroulent pas sur l'ensemble du territoire. Le Conseil constitutionnel avait constaté l'existence d'une force majeure en raison de la présence de groupes terroristes et l'absence de l'administration dans les zones affectées.
L'armée mauritanienne a renforcé ses positions à la frontière avec le Sahara occidental, où environ 200 routiers marocains se disent bloqués par des groupes pro-Sahraoui. Le Front Polisario a menacé lundi de mettre fin à l'accord de cessez-le-feu avec Rabat si le Maroc introduit des troupes ou des civils dans la zone tampon d'Oguerguerat. Le Maroc contrôle plus de 2/3 de son vaste territoire désertique. Une aide d'urgence est nécessaire au Tchad pour environ 11 500 personnes récemment déplacées par les fortes inondations qui ont touché N'Djamena depuis août, a estimé jeudi l'Organisation internationale pour les migrations.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé jeudi la Centrafrique à appliquer entièrement et sans retard l'accord de paix de février 2019 en renouvelant pour un an sa mission de casquet bleu et l'autorisation faite à la France de les soutenir militairement. Une résolution en son sens, rédigée par Paris, a été adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Les Nations Unies et l'Église catholique sont intervenues mercredi dans la crise politique qui couve au sein de la coalition au pouvoir en RDC entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a demandé aux acteurs politiques de tous les bords de s'abstenir de tenir des discours pouvant porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Des centaines d'Éthiopiens se sont rassemblés jeudi à Addis Abeba à l'appel des autorités municipales afin de donner leur sang pour les soldats au combat depuis une semaine dans la région dissidente du Tigré. Selon un responsable soudanais, plus de 11 000 personnes ont trouvé refuge au Soudan. Nous reviendrons sur le conflit en Éthiopie et tous ses risques dans notre partie magazine. Quatrième jour de discussion interlibyenne en Tunisie, 75 délégués ont repris les négociations politiques sur le partage du pouvoir au sein d'un exécutif unifié au lendemain d'un accord préliminaire sur l'organisation d'élections dans un délai de 18 mois en Libye. Jacques Aristide.
Le dialogue sous l'égide de l'ONU se déroule depuis lundi à Gamarthe, dans la banlieue de Tunis, pour tenter de sortir la Libye du chaos. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, les pourparlers ont lieu depuis la cessation en juin dernier des hostilités entre les deux camps rivaux, le GNA, le gouvernement d'union à Tripoli, et à l'est, le pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Hier, les délégués choisis par l'ONU sont tombés d'accord sur une feuille de route préliminaire, prévoyant de tenir des élections présidentielles et parlementaires dans un délai n'excédant pas les 18 mois. Au menu aujourd'hui, la question des prérogatives du Conseil présidentiel et du gouvernement, d'après l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stephanie Williams, présente à ses pourparlers. Les délégués sont chargés de nommer les trois membres de ce Conseil et le chef du gouvernement, selon l'ONU. Parallèlement à ces discussions, des pourparlers se tiennent à Sirte, en Libye, sur la concrétisation du cessez-le-feu permanent annoncé en octobre dernier entre les forces du GNA et celles du maréchal Haftar.
Huit membres de la force multinationale d'observateurs dans le Sinaï égyptien, dont six Américains, un Français et un Tchèque, ont été tués dans le crash de leur hélicoptère. Trois ans après la signature de leur traité de paix, l'Égypte et Israël, avec l'appui des États-Unis, on rétablit cette force déployée en 1982 comme une organisation internationale indépendante de maintien de la paix. Elle compte actuellement un peu plus de 1100 soldats de différentes nationalités, dont l'Australie, les États-Unis, le Canada et la France.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a choisi dans la nuit de mercredi à jeudi Ron Klain, un démocrate chevronné, pour être son futur chef de cabinet à la Maison-Blanche. M. Biden procède ainsi à sa toute première nomination annoncée dans un communiqué par son équipe de la transition. Le président Donald Trump a jusqu'à présent refusé de concéder sa défaite et mène une bataille judiciaire dans l'espoir de renverser le résultat de l'élection. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a qualifié jeudi le système électoral américain de l'un des plus archaïques au monde. Il a notamment critiqué le suffrage indirect dans l'élection du président, qui est élu par des grands électeurs désignés au suffrage universel. Une délégation russe est attendue vendredi en Turquie pour discuter du contrôle conjoint du cessez-le-feu au Nagorno-Karabakh par Moscou et Ankara. L'accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie mettant fin aux hostilités au Nagorno-Karabakh, conclu lundi sous l'égide de la Russie, ne fait pas mention d'un quelconque rôle de la Turquie dans sa mise en œuvre, mais Ankara, allié de Bakou, affirme qu'il va contrôler conjointement avec Moscou l'application du cessez-le-feu. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a exhorté jeudi les puissances mondiales à être fermes à l'égard de l'Iran et à l'empêcher de se doter d'armes de destruction massive. L'Arabie saoudite, qui se dispute le leadership de la région avec l'Iran, semble craindre que le président américain élu, Joe Biden, revienne à l'accord conclu en 2015, alors qu'il était vice-président de Barack Obama. Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
Le Nigeria a ratifié hier la zone de libre-échange continentale censée devenir l'espace commercial le plus peuplé du monde. L'annonce a été faite sur Twitter par le gouvernement. Ce marché commun qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2021 ambitionne de faire progresser les échanges intra-africains pour doper les économies du continent. Sur les 55 pays africains, 54 sauf l'Érythrée, ont déjà signé cet accord lancé officiellement en juillet 2019. Tous ne l'ont pas encore ratifié. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire français BNP Paribas, a enregistré une perte de 3,612 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2019. Cela contraste nettement avec 2018 où cette banque avait réalisé un bénéfice de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Les cinq États de l'UEMOA ayant sollicité le marché régional ont levé entre le 27 octobre et le 10 novembre 2020 un montant global de 683 milliards de francs CFA au titre des bons sociaux COVID-19. Le montant global levé par les États lors de cette phase représente une baisse de 17,7% comparé à la deuxième vague. Ils avaient en effet emprunté 831 milliards de francs CFA entre juillet et août 2020 contre 1200 milliards en avril et mai.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La fenêtre internationale FIFA s'est ouverte hier sur le continent avec les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN. La Guinée a disposé du Tchad 1-0 à Conakry et prend provisoirement la tête du groupe A avec 7 points. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Madi Camara. Des buts de Sadio Mané et Opan Guedes ont permis au Sénégal de s'imposer 2-0 à domicile face à la Guinée-Bissau. 1-1 entre la Mauritanie et le Burundi, même score entre le Kenya et les Comores. 3-2 pour la Guinée équatoriale face à la Libye. Cette troisième journée des éliminatoires se poursuit ce soir avec entre autres rencontres Cameroun-Mozambique, Côte d'Ivoire-Madagascar, Ghana-Soudan, Algérie-Zimbabwe, Congo-Eswatini, Gabon-Gambie ou encore Burkina Faso-Malawi. Demain, le Mali reçoit la Namibie au stade du 26 mars de Bamako. Selon le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magasouba, la Namibie est un adversaire de taille que le Mali connaît déjà. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
C'est un match qui s'annonce difficile à en croire les propos du sélectionneur national des Aigles du Mali. Pour Mohamed Magasouba, la Namibie est un adversaire coriace et redoutable. Parce que par le passé, Mali-Namibie n'a jamais été un match facile. Il faudra donc s'attendre à une rencontre de titans. Bref, ce sera un match époustouflant et engagé des deux côtés, a indiqué Magasouba. Pour le sélectionneur du Mali, les Aigles sauront relever le challenge qui les attend. En clair, il s'agira pour eux d'arracher les 3 points à domicile au bonheur de leurs supporters qui seront sévrés de leur équipe pour cause de coronavirus. Puisque le match se jouera à huis clos. Si le Mali gagne demain, lors de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, ce sera une large option vers la qualification pour la phase finale. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
En Europe, ce fut une soirée de matchs amicaux internationaux marquée par une énorme surprise. La défaite concédée par la France, championne du monde devant la modeste Finlande, victorieuse 2-0 au Stade de France. Cette défaite intervient à 3 jours du match à Lisbonne en Ligue des Nations contre le Portugal qui, lui, n'a pas fait dans la dentelle face à Andorre, écrasé 7-0. La principale affiche Pays-Bas-Espagne s'est soldée dans la Johan Cruyff Arena à Amsterdam par un résultat nul 1-1. La Belgique, l'Italie et l'Allemagne sont restés maîtres à domicile face respectivement à la Suisse 2-1, l'Estonie 4-0 et les Tchèques 1-0. Cette soirée a vu en outre la Turquie et la Croatie se séparer sur un match nul, mais avec une pluie de buts 3-3 à Istanbul.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour aborder les dossiers du jour. Première rencontre hier entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan-Bédié, depuis l'élection présidentielle du 31 octobre, contestée par l'opposition. Ce tête-à-tête visait à tenter de mettre fin aux violences électorales qui ont fait 85 morts en 3 mois en Côte d'Ivoire. Pour analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver Konan.
La Côte d'Ivoire, après la rencontre, se porte mieux, en tout cas mieux par rapport à toutes ces semaines qui se sont écoulées depuis l'annonce de la candidature pour un troisième mandat manifestement illégal du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, l'on ne m'a pas encore signalé des incidents majeurs, donc je pense que c'est la conséquence de cette rencontre.
Une rencontre pour briser la glace, disent les deux. Faut-il croire réellement à un apaisement définitif des violences?
Alassane Ouattara a dit c'est une rencontre pour briser la glace. Henri Konan-Bédié a dit c'est une rencontre pour briser le silence. Ce sont deux choses totalement différentes qui attestent de ce que la crise de confiance demeure. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'allons pas apporter un blanc-seing à cette rencontre qui est importante mais pas essentielle, d'autant que ce qui est essentiel c'est le dialogue inclusif.
Alassane Ouattara a déjà prêté serment pour son troisième mandat controversé. Quel genre de compromis pourrait dégager les deux camps?
Les revendications de l'opposition partent donc de l'annulation du scrutin pour certains au renforcement des acquis démocratiques, de la gouvernance démocratique pour d'autres. Et de ce fait, je pense que les discussions tourneront autour des revendications de l'opposition qui sont entre autres la libération des prisonniers politiques, la levée du blocus de certaines résidences. J'ai cru lire que certains blocus des résidences d'opposants ont commencé à être levés effectivement. La transparence de la commission électorale indépendante et bien d'autres sujets. Mais aussi des revendications dont la renonciation donc à ce Conseil national de transition manifestement anticonstitutionnel et illégal de l'opposition.
Derrière Henri Konan-Bédié, il y a des poids lourds, hein, comme Laurent Gbagbo, Pascal Affine-Guessan, il y a Guillaume Soro, il y a Charles Blé-Goudé. On sait que c'est très tendu entre Gbagbo, Charles Blé-Goudé et Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Est-ce que Bédié peut être le porte-voix de ces personnalités-là auprès de Ouattara?
Cela est fort possible. Dans tous les cas, Laurent Gbagbo a déjà déclaré qu'il soutenait la coalition de l'opposition amenée par Henri Konan-Bédié. Guillaume Soro est déjà, je vais dire, en partenariat avec Henri Konan-Bédié. Pascal Affine-Guessan a été jusque-là très récemment le porte-parole du Conseil national de transition présidé par Henri Konan-Bédié. Cela ne devrait donc pas être un vrai problème pour l'opposition. Ce qui serait un problème, c'est que le PDCI d'Henri Konan-Bédié cherche peut-être à faire cavalier seul. Mais pour nous, cette discussion ne doit pas seulement tourner autour des dirigeants politiques qui ont contribué quand même à nous mettre dans cette situation, parce que le troisième mandat d'Alassane Ouattara, il faut bien comprendre que c'est parti d'arrangement entre anciens alliés du RHDP aujourd'hui devenus adversaires. De ce fait, la discussion doit aussi inclure la société civile dont les hommes libres et indépendants, les intellectuels que nous sommes.
André Silver Konan, analyste politique à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
De plus en plus de femmes se présentent à une élection présidentielle en Afrique. Tel est le cas au Burkina Faso de Yeli Monique Kam, la seule candidate retenue sur 3 femmes parmi les 13 dossiers validés pour la présidentielle du 22 novembre. Jointe par Nathalie Barge, Madame Kam commente la caution de 25 millions de francs CFA avant de témoigner des difficultés des femmes à se lancer dans la course à la magistrature suprême.
Quand bien même je suis chef d'entreprise, c'est dit que cette somme-là pouvait être utilisée pour mieux organiser ma campagne électorale. Je fonctionne chez fonds propres. Le fait d'avoir enlevé 25 millions du budget de la campagne, effectivement, c'est une difficulté.
Est-ce que vous aviez également besoin d'une liste de soutien?
50 élus, 50 parrains, des élus locaux, dans cette région au Mans. Donc, les parrainages, c'est une condition introduite dans le code électoral révisé en 2015.
Que dites-vous aux gens qui sont encore réticents rien qu'à l'idée de voter pour une femme?
C'est le contenu du message qui compte, c'est l'engagement qui compte. Et cette année, l'électorat exprime un besoin d'avoir une nouvelle offre. La pauvreté amène les populations à être plus ouvertes à de nouvelles offres sans tenir compte du genre.
Est-ce que vous-même, au sein de votre parti, au sein de votre équipe de campagne, vous essayez quand même de tenir compte de la parité?
J'essaye de tenir compte de la parité. Mais comme je suis en politique, j'essayais de constituer des équipes gagnantes. Je responsabilise des personnes qui sont engagées. Mais j'ai eu la chance d'avoir des femmes engagées à mon côté, telles que ma directrice de communication et de protocole est une femme, la directrice de communication une femme. Et dans les équipes aussi, je mets en avant les femmes.
Est-ce qu'il y a des quotas au Burkina Faso qui sont tenus d'être respectés en matière électorale?
Oui, la loi sur le quota genre a été votée. Cette loi-là favorise la participation des femmes suivant un quota de 30% dans toutes les sphères de décision, y compris sur les listes des élus. Le taux est de 30%.
Est-ce qu'il est respecté d'une manière générale?
D'une manière générale, ce taux n'est pas respecté. Et moi-même, en tant que femme, je n'ai pas pu respecter ce taux.
Est-ce que ce sont les femmes qui ne sont pas suffisamment engagées ou est-ce que c'est seulement peut-être qu'elles n'osent pas faire le pas vraiment d'avoir des responsabilités en politique?
La première raison, ce sont des motifs financiers. Et pour s'engager et tenir, être en avant sur une liste, je veux parler des élections, il faut quand même un minimum de moyens. Les femmes sont les plus touchées par la pauvreté, les femmes n'ont pas la capacité financière. Et deuxièmement, c'est que malgré la volonté des femmes, elles n'ont pas pu se libérer des barrières sociales.
Yeli Monique Kam, candidate du Mouvement pour la Renaissance du Burkina Faso à la présidentielle du 22 novembre.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le conflit militaire entre l'Éthiopie et la région dissidente du Tigré a fait craindre une guerre civile dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Cela soulève aussi des inquiétudes sur la propagation de l'instabilité régionale si ce conflit perdure. Le reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, le récit est de John Lyndon.
Le conflit entre le gouvernement fédéral éthiopien et les combattants du Front de libération du peuple du Tigré entre dans sa deuxième semaine. Quelques 8000 Éthiopiens se sont réfugiés au Soudan et les agences humanitaires attendent davantage dans les prochains jours. Le conflit a commencé lorsque des combattants du Tigré ont attaqué une position du gouvernement fédéral dans ce que le gouvernement a qualifié de tentative de pillage d'un stock d'armes et d'équipements. Le premier ministre Abiy Ahmed a aussitôt ordonné une action militaire pour mettre fin au soulèvement. Comfort Hero est le directeur du programme Afrique à International Crisis Group.
Right now, what we see is more and more fighting.
À l'heure actuelle, ce que nous voyons, c'est davantage de combats, des positions plus tranchées des deux côtés. Même si les forces tigréennes sont écrasées et maîtrisées, vous pouvez vous attendre à une forte résistance, une résistance de type guérilla, et c'est possible. Nous ne voyons pas les Tigréens être gouvernés de sitôt depuis Addis, et nous pourrions envisager une situation longue et prolongée.
Ces tensions montent depuis septembre, lorsque la région du Tigré, l'un des 9 États fédéraux de l'Éthiopie, a défié en organisant des élections locales que le premier ministre Abiy Ahmed avait reportées en raison de la pandémie de COVID-19. Il y a eu peu d'informations provenant de la zone de conflit et des difficultés à évaluer les besoins humanitaires, car le gouvernement a coupé l'accès à Internet. Thomas Murphy est un analyste du renseignement et des risques de sécurité en Afrique subsaharienne. Pour lui, l'échec du gouvernement à vaincre les combattants tigréens pourrait causer beaucoup plus de problèmes au pays.
the likelihood of a coup would almost certainly increase.
La probabilité d'un coup d'État augmente certainement si l'armée ne parvient pas à vaincre les combattants du Front de libération du peuple du Tigré. Cela viendrait probablement de factions qui, auparavant, ont été très influentes au sein du gouvernement. En termes d'implication plus large, l'Éthiopie est actuellement dans un état très fragile et je pense que la probabilité que les tensions s'intensifient ou se détériorent en push de conflits impliquant d'autres acteurs ethniques à travers le pays est très élevée.
Dimanche, le Premier ministre a nommé un nouveau chef de l'armée et du renseignement pour mener la guerre dans la région du Tigré. L'expert politique Aolalo estime que vouloir régler les problèmes du pays avec des armes à feu pourrait le diviser encore plus.
C'est déjà un pays très divisé sur des bases ethniques. La Constitution donne aux gens le droit à l'autodétermination avec la capacité de déterminer leur statut politique et culturel, mais aussi le droit d'être un État indépendant. Ainsi, la décision du Premier ministre de régler un différend politique par une confrontation armée conduirait probablement à la désintégration de l'État éthiopien en plusieurs petites républiques, ce qui, bien sûr, aurait une ramification considérable non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la Corne de l'Afrique.
En 2019, Abiy Ahmed a remporté le prix Nobel de la paix pour ses efforts de mettre fin aux hostilités entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il a aussi arbitré les différends au Soudan du Sud, au Kenya et en Somalie. Mais il a cependant exclu les pourparlers avec les dirigeants du Tigré, alors que selon International Crisis Group, seul un dialogue national complet pourrait sauver l'Éthiopie et la région.
Ici aux États-Unis, la campagne du président Donald Trump a lancé cette semaine une bataille juridique pour arrêter la certification des résultats des élections en Pennsylvanie. Le président refuse toujours d'accepter sa défaite face à Joe Biden. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est signé Lionel Lunaniragahima.
Le 11 novembre, pour commémorer l'armistice, le président Donald Trump a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington. Tandis que le président élu Joe Biden a visité Philadelphie, le mémorial de la guerre de Corée. Aucun d'entre eux n'a fait de remarque. Trump refuse de concéder la victoire à Biden plus d'une semaine après l'élection présidentielle. Le président a même déclaré sur Twitter... Nous allons gagner. Monsieur Trump est donné gagnant dans l'État de l'Alaska, ce qui lui donne maintenant 217 grands électeurs contre 279 pour Biden. Un candidat a besoin d'un minimum de 270 grands électeurs pour remporter la course à la Maison-Blanche. Trois États n'ont pas encore affiché des résultats complets, à savoir l'Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord. En plus de diverses contestations judiciaires déjà déposées dans plusieurs États alléguant une fraude électorale, la campagne Trump a lancé un nouveau procès pour bloquer la certification des résultats des élections en Pennsylvanie. Paul Schiff Bergman est professeur de droit à l'Université George Washington.
Il est possible que s'ils soulèvent assez de poussière, suffisamment d'allégations et d'incertitudes, ils pourraient convaincre les législatures contrôlées par les républicains de faire asseoir une liste rivale de grands électeurs qui seraient opposés à ce que les votes dans l'État et les électeurs de l'État ont réclamé. Ce serait une étape extrême, ce serait vraiment un coup d'État contre le peuple américain et une destruction du processus démocratique.
Par ailleurs, deux États, le Wisconsin et la Géorgie, se dirigent vers un recomptage des bulletins. Brad Raffensperger est secrétaire d'État de la Géorgie.
La marge étant si étroite, il faudra un recomptage manuel complet dans chaque comté. Cela va contribuer à renforcer la confiance. Ce sera un audit, un recomptage et une nouvelle analyse en même temps.
Le camp Trump a célébré cette annonce avec le directeur de la communication de la campagne, Tim Martell, en déclarant « C'est une première étape importante dans le processus visant à garantir que l'élection était juste et que chaque vote légal était compté. » Jusque-là, aucune des batailles juridiques engagées par la campagne Trump n'a fourni des preuves de ces allégations de fraude. Selon la loi, les grands électeurs des États doivent officiellement voter pour le président et le vice-président à la mi-décembre.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production pour la réalisation et la mise en onde. À la présentation, Eric Manirakiza. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Excellente soirée à tous. Au revoir.